Bienvenue sur le podcast de Resolve. Je suis Jonathan Garcia, conseiller en financement pour l'agence de Sion. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Danick Herly, expert en estimation immobilière pour Ride Immobilier. Salut Danick, comment tu vas?
Salut Joe, ça va super, je te remercie. J'espère que toi aussi.
Ça va super, je te remercie. C'est un podcast un peu particulier aujourd'hui car Danick, tu es un ami avant tout, mais surtout, tu es un coéquipier. On joue ensemble dans les vétérans du UFC Sion, donc je me réjouis de partager avec toi aujourd'hui autour de l'estimation immobilière.
Volontiers.
Peux-tu te présenter et nous expliquer ton rôle chez Ride Immobilier, s'il te plaît?
Volontiers. Donc, moi, je suis expert en estimation immobilière avec un brevet fédéral. Donc, je travaille pour le bureau Ride Conseil Immobilier. On se trouve en Valais, principalement. Et puis, on a deux pans d'activité. Je dirais le premier qui porte sur l'expertise qu'on va peut-être un petit peu survoler aujourd'hui. Et puis, le deuxième pan du conseil qui traite, je dirais, essentiellement de l'analyse de marché. Du conseil stratégique pour les collectivités publiques, notamment dans leur développement territorial, gérer la stratégie d'investissement pour les investisseurs privés, et puis tout ce qui est aussi de l'arbitrage de manière générale.
Excellent, donc ça fait beaucoup d'activités, beaucoup de travail j'imagine.
Alors ça fait effectivement pas mal d'activités, mais des activités qui sont relativement complémentaires. Donc ça fait, je dirais, du sens, et puis c'est quelque chose qui se fait conjointement.
Merci pour ces infos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle souvent d'estimation et on parle d'experts. En quelques mots, en quoi consiste réellement le métier d'expert en estimation immobilière?
Alors, je dirais qu'un expert, avant tout, je dirais sa vocation première, ça va être de déterminer la valeur d'un bien en analysant de manière très fine tous les facteurs d'influence de la valeur. Je dirais au niveau des enjeux juridiques, économiques, techniques et situationnels. Et puis c'est vrai que le but, c'est de le faire selon des principes méthodologiques qui sont très stricts. On a une certaine déontologie, parce que c'est clair que notre cadre, c'est aussi de s'arrêter là où nos compétences s'arrêtent. Et puis, je dirais peut-être l'élément essentiel pour nous, c'est ce devoir d'indépendance. Ça veut dire qu'on n'est pas partie prenante dans les dossiers qu'on traite. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêts. Et c'est notamment pour ça qu'on fait pas de courtage et de location. Même si, je dirais, l'un n'empêche pas l'autre, mais nous, on tient vraiment à garder cette neutralité.
Excellent, merci beaucoup pour cette définition, parce que souvent les gens, ils en entendent parler, mais ils savent pas de quoi ça consiste réellement. Et maintenant, ça me permet de rebondir sur une chose super importante. Souvent, on voit sur Internet des estimations en ligne. Qu'est-ce qui différencie une vraie estimation de la part de Danick de celle qu'on peut retrouver en ligne?
Alors, je dirais, je vais faire attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas me mettre à dos toutes les régies qui pratiquent ce genre de pratique. Mais je dirais, fondamentalement, je ne pense pas qu'on puisse parler de vraie ou de fausse estimation. Je pense qu'il y a vraiment deux approches qui sont diamétralement différentes. Peut-être pour recentrer l'estimation en ligne, c'est avant tout une estimation qui est faite sur un outil hédoniste dans lequel on insère des données et puis qui va nous recracher un prix avec une fourchette qui est généralement assez conséquente. Faut pas oublier que ces outils sont faits sur la base d'algorithmes avec des bases de données qui sont plus ou moins fournies en fonction des régions dans lesquelles on se trouve, qu'elles soient urbaines ou rurales. Et puis c'est vrai, souvent on est confronté à des différences assez importantes parce qu'on n'a justement pas assez d'occurrences pour nourrir cette base de données.
Excellent, on voit qu'on a affaire à un vrai professionnel. Merci. Je pense que c'est important de bien comprendre comment on estime un bien. Et j'avais une question, comment est-ce qu'on estime différemment un appartement, une maison individuelle ou alors un immeuble de rendement?
Alors parfaitement. Je crois que c'est un des fondamentaux de l'expertise immobilière. C'est vraiment de déterminer un objet ou de l'approcher en fonction de sa nature propre, de son usage et puis du contexte de l'expertise. Donc selon la doctrine et puis les meilleures pratiques immobilières, on distingue trois approches, qui est l'approche par comparaison, l'approche par le rendement ou alors l'approche par les coûts, notamment une valeur intrinsèque ou une valeur par lot qu'on va utiliser pour un appartement en usage propre ou une maison individuelle ou mitoyenne, par exemple.
Excellent. C'est là où on est souvent confronté avec une valeur vénale ou une valeur de rendement.
Alors effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a la méthode et puis il y a la valeur. Une valeur intrinsèque va pas forcément être une valeur vénale. Et c'est ça où souvent on a de la peine à faire comprendre.
Ouais.
C'est qu'il y a la méthodologie où on a une valeur intrinsèque, une valeur par lot, une valeur d'amateur, une valeur d'assurance. On a tout un jargon de la valeur. Et puis, on a une valeur vénale qui, par définition, est une valeur de marché. Donc, toutes les valeurs que je précitais tout à l'heure, on va en retenir une qui va représenter la valeur vénale ou la valeur de marché.
Excellent. Bon, il y a beaucoup de critères, hein, mais quels sont les critères les plus déterminants dans la valeur d'un bien immobilier aujourd'hui? Bon, tu viens d'expliquer, hein, qu'en fonction de la typologie, bah, il y a forcément des choses qui divergent, mais si tu devais en retenir quelques-unes, quelles seraient?
Alors, je crois qu'on a tous plus ou moins été confrontés à l'immobilier. C'est vrai que c'est un domaine qui est assez large ou qui paraît un peu connu pour tout le monde et qui n'a pas entendu une fois ou l'autre situation. Donc, c'est clair que ça, c'est certainement le facteur primordial qui va différencier les prix en fonction d'une zone urbaine ou rurale, en différence de ville, ou je dirais même parfois au sein d'un même quartier. Le simple fait d'être à un endroit bien précis va expliquer la différence de prix.
Ben justement, je rebondis également. Peux-tu vous donner un exemple concret où deux biens très similaires ont pourtant des valeurs différentes, comme tu viens de l'expliquer?
Alors, je dirais, si on a un focus uniquement sur la partie d'emplacement, peut-être même au sein d'un même immeuble, c'est clair que si on va se trouver avec deux appartements qui sont similaires en tout et pour tout, sauf que un se trouve au rez-de-chaussée avec une vue plongeante sur la route cantonale, ou alors si on se trouve au deuxième étage et puis qu'on a une vue ouverte sur un jardin, ben c'est clair qu'on a une micro-situation qui est identique et on a une appréciation de l'objet qui va être totalement différente.
Excellent, et c'est vrai que c'est un super exemple. Maintenant, si on vient un petit peu sur le marché actuel, comment décrirais-tu le marché immobilier suisse, ou plutôt valaisan, hein, concentrons-nous sur le Valais, c'est ton secteur d'activité, comment tu le décrirais actuellement?
Effectivement, tu fais bien de le préciser, parce que nous, on a tendance à dire qu'il n'y a pas un marché immobilier, mais il y a des marchés immobiliers, parce qu'on a effectivement une hétérogénéité des marchés avec des différences qui sont très importantes, que ce soit au niveau régional ou sectoriel. Alors, je dirais de manière générale, on peut dire que le marché, il est plutôt positif, même si on voit que les prix, que ce soit à la vente ou à la location, ils tendent quand même à être vers le haut et puis à rendre ce marché un petit peu tendu. Mais si on devait relever peut-être les fondamentaux du marché actuel, on voit qu'on a une croissance démographique qui est toujours en constante évolution, même si elle a ralenti un tout petit peu, une offre qui est relativement mesurée sur certains segments de marché, un taux de vacances qui est historiquement bas. Je veux dire, si on parle du marché régional, on prend Sion avec un taux de vacances de 0,20%.
C'est fou, hein.
C'est affolant. Si on prend parallèlement Genève avec un taux de vacances de 0,43, il y a même plus de vacances à Sion qu'à Genève. Ça paraît totalement dingue. Des taux d'intérêt, mais là, on est plus sur ton domaine, où je pense qu'on a retrouvé des taux relativement intéressants et attractifs. Et puis, je crois qu'il faut aussi peut-être avoir une vision qu'historiquement, ces taux, même s'ils sont un petit peu plus élevés qu'il y a quelques années en arrière, ils sont quand même toujours très bas. Donc,
Si je rebondis encore une fois, c'est que c'est le bon moment pour investir en Valais. Si j'entends le marché des porteurs, il est un peu sec, certes, mais ça vaut la peine d'acheter quelque chose en tant qu'investisseur, ou alors en résidence principale, évidemment.
Ça dépend toujours de quel côté on est. Est-ce qu'on est du côté de l'acheteur ou du vendeur? Et puis là, c'est un petit peu là où le baromètre il va pencher. C'est clair qu'on voit que on a des aspects du côté de l'acheteur avec ces taux qui sont relativement attractifs. Et puis, on a quand même une rareté sur le marché qui tend à tirer les objets vers le haut. Donc, je dirais, l'important, c'est de pouvoir, à mon sens, saisir les bons momentum et puis être efficace à l'instant T.
Je te remercie pour la réponse qui est très complète. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines typologies de biens qui sont surcotés ou alors sous-cotés? Notamment peut-être la plaine, en station.
Alors effectivement, par typologie, est-ce qu'on entend des types d'objets par affectation, ou alors pour un objet résidentiel, 1, 2, 3,5, 4,5, sur ces types d'objets de manière générale, je ne pense pas qu'on ait une tendance à la sur- ou à la sous-évaluation. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'on a des objets qui ont un degré d'entretien qui est relativement bas, une vétusté prononcée, ou alors des objets qui sont énergivores, où là, on voit des prix affichés qui sont toujours encore relativement haut par rapport aux obligations auxquelles elles vont devoir faire face pour des travaux d'assainissement, de rénovation. Et puis, à contrario, je dirais, si on prend un petit peu ces objets à haute ou à très haute performance énergétique, comme par exemple un label Minergie P, si on ne veut pas citer de label, on va avoir peut-être une sous-évaluation de ces objets par manque de comparables et surtout par méconnaissance en fait, du marché.
Excellent. Et aujourd'hui, si tu devais donner, est-ce que tu vois quelques erreurs souvent chez un propriétaire qui souhaite vendre ou alors un acheteur, est-ce qu'il y a des choses qui te marquent dans ton quotidien?
Alors c'est clair qu'il y en a relativement pas mal qu'on pourrait lister, mais peut-être si on se limite aux essentiels, on va dire qu'il y a peut-être la distinction entre le coût et la valeur, où c'est vrai que souvent on peut avoir une impression, je prends un exemple, parce qu'on fait 500 000 francs de travaux, on pense que notre objet, ben, c'est 400 plus 500, il en vaut forcément 900 000. Et puis ben, l'appréciation du marché, elle n'est pas forcément identique au coût qu'on a engagé dans nos travaux. Ou pour une maison qu'on aurait construite pour son usage propre, on l'a fait particulière, une maison d'architecte. Pour nous, elle nous parle, mais en fait, pour la grande majorité du marché, ça va peut-être pas être aussi essentiel. Et puis ça, c'est vrai que c'est un des éléments phares. Ou alors, j'irais peut-être aussi, ce qui est assez intéressant, qui laisse souvent un échange peut-être des fois un peu musclé. Nous, on dit comparer des pommes avec des poires, c'est quand on parle des valeurs de terrain. Et puis, cette généralité faite de manière, je dirais, absolue en disant, par exemple, à compter, c'est 800 francs le mètre carré de terrain. Et ça, c'est un raccourci souvent qui est totalement biaisé et puis qui impacte et puis qui laisse une fausse image du marché. Parce que c'est clair qu'un terrain, il va valoir par rapport à ce qui est construit ou ce qu'on peut y construire. Et puis là, on doit avoir une approche qui est fine. Et on n'a pas forcément tous les droits à bâtir du terrain qui sont, je dirais, activés. Et là aussi, sur un terrain de 1000 mètres carrés, si on n'utilise que 600 mètres carrés du terrain, ben, il y a une surface d'agrément qui ne va pas valoir la même chose. Donc, c'est toujours ces enjeux, je dirais, qu'il faut peut-être attirer un petit peu plus l'attention sur les acheteurs et les vendeurs.
Excellent, très intéressant. Et si on fait maintenant un lien avec le financement, hein, pourquoi une bonne estimation est-elle cruciale pour obtenir un financement bancaire? Ça rejoint un peu hein, ce que tu viens d'expliquer par rapport à...
Alors là, j'aurais peut-être envie de te retourner la question, parce que c'est toi qui es de l'autre côté, effectivement. Alors, à mon sens, on va pouvoir, je dirais, écourter tout du moins le processus de financement, peut-être parfois optimiser même une valeur de gage, parce que c'est vrai, je dirais... Ce qui est intéressant à mon sens pour une banque, c'est la responsabilité qu'on a au niveau déontologique où on n'est pas partie prenante à l'affaire. Donc si on veut bien, on n'a aucun intérêt prépondérant à sur ou à sous-évaluer une valeur. Et je pense que c'est vraiment un gage de garantie pour la banque d'avoir une expertise qui soit bien faite dans leurs mains.
Excellent. Du coup, dans quel cas tu recommanderais une estimation ? Pour quel type de client ou quel type de situation?
Alors, à mon sens, je pense dès qu'il y a une volonté de stratégie patrimoniale, c'est à ce moment-là qu'il faudrait entamer des démarches. Ça peut être pour déterminer un bilan patrimonial, pour préparer une succession, pour un divorce, pour une vente, avant d'engager des grands travaux. Ce qui est important, à mon sens, c'est vraiment d'avoir une vision ciblée et clair de ce qu'on a envie de faire. Et puis, je dirais que l'expertise, c'est avant tout, c'est du conseil. Et puis, c'est un outil de pilotage. C'est pas forcément un outil de vente.
C'est très bien dit. Merci pour ces précisions très professionnelles. Et passons sur des conseils un peu pratiques pour les auditeurs. Au final, c'est quand le bon moment pour faire une estimation d'un bien?
Ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué. Le but, c'est vraiment de déclencher cette action, je dirais, pour mettre en place sa stratégie. Est-ce que j'ai envie de réévaluer mon patrimoine? Est-ce que j'ai envie d'arbitrer? Peut-être que j'ai envie de... Est-ce que je garde mon bien? Je le rénove? Je le vends? J'ai envie d'optimiser ma fiscalité? Ou alors, j'ai envie de structurer une transmission? Donc, je dirais de nouveau, il faut qu'il y ait une vision qui soit claire, une volonté propre et de mettre en place une stratégie.
Excellent. Et finalement, un propriétaire, que peut-il faire pour maximiser la valeur de son bien? Tu parlais avant de ses travaux. Est-ce qu'il y a une stratégie bien précise pour maximiser la valeur?
Alors, je pense effectivement que soigner l'entretien de son bien, c'est certainement un élément fondamental. On a tendance à penser qu'on fait des économies et puis que le marché, lui, il régule et puis il fait augmenter simplement la valeur de son bien. À mon sens, tôt ou tard, on paye le manque d'entretien de son bien. Et puis c'est vrai que le manque d'entretien, si on doit vendre un objet qui est bien entretenu, qui est attractif, qui est intéressant, bah c'est tout de suite moins de cartouches pour l'acheteur dans la négociation. Donc ça, je pense que c'est un élément fondamental. Et puis, si on penche peut-être plus du côté des objets d'investissement, maximiser l'état locatif, je pense par rapport à toutes les problématiques législatives, au droit du bail et les contraintes qu'on a pour augmenter les loyers, si on maintient son état locatif, je dirais en ligne avec le marché, ça souvent, c'est un grand pas de fait.
Excellent, merci pour ces précieux conseils. Une dernière petite question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage d'acheter ou de vendre un bien dans les 12 prochains mois?
Alors, je dirais, au-delà de la temporalité que tu donnes, je dirais plutôt, partez pas du prix, partez de votre stratégie. Le prix, c'est une résultante.
Excellent. Et une anecdote à raconter, si tu en as une, concernant une évaluation extraordinaire que tu as déjà dû faire.
Alors, j'en ai tout plein. Il faudrait que je fasse juste attention à ne pas trahir de secrets de confidentialité. Mais c'est clair que sur le marché de Verbier, on est tout de suite confronté à un marché qui est, je dirais, hors des normes. Et puis, je me rappelle avoir vu, je pense certainement, le plus beau chalet que j'ai eu l'occasion de voir avec... Je pense qu'on dépassait allègrement les 60 millions. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et je me rappelle, on avait fait ça pour un organe de financement qui nous avait dit est-ce qu'on peut faire une séance? Parce que je suis d'accord avec vous, mais vous me donniez les arguments que je vais devoir donner au propriétaire. Parce qu'il est possible qu'ils ne soient pas forcément en ligne. Et là, c'est vrai que c'était totalement hors de toute perception et de maîtrise, je dirais, factuelle d'une expertise. On était vraiment sur un objet d'amateur, sans règles propres, et ça, c'est vrai que c'était assez extraordinaire.
Merci beaucoup pour ce moment de partage, Danick. On a affaire à un vrai pro. Ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et d'avoir mis la lumière sur ton activité. Merci pour
toi. Merci à toi. Je te remercie, Joe.